Bonjour et bienvenue dans Certains Lama Show, l'émission qui débriefe les films à la sortie. Bonjour Thierry.
Bonjour Thomas.
Aujourd'hui une émission un peu spéciale puisque nous sommes au 13e festival du film coréen de Paris, au Publicis Cinéma, un festival qui dure du 30 octobre au 6 novembre 2008. Alors, un festival formidable avec plus d'une trentaine de films, des documentaires, des courts-métrages. On va pas pouvoir tout voir, hein, vous pensez bien. Donc dans cette émission, on a pris quelques films un peu au hasard, au feeling. Et ça sera la surprise. On vous les notera en commentaire à quelle timeline les trouver. Donc vous pourrez choisir et piquer le film où vous voulez faire votre petite sélection. Allez, on commence tout de suite avec notre coup de cœur de la journée, 1987, When the Day Comes.
이미 사망했습니다. 시신은 어떻게 할까요?
태우라오. 어떤 아버지가 서울대 다니는 아들 시신도 확인도 안 하고 화장을 하라고 그러나? 어?
아, 서울대생.
Un film de Jang Jun-gwao, je ne sais pas si je le prononce bien, de 2017, et c'est un film de 2 heures. La trame, qu'est-ce que c'est? Un étudiant meurt dans des circonstances mystérieuses, la police... fait surtout la police anticommuniste, on est en Corée dans les années 80, en Corée du Sud, veut procéder à la crémation du corps sans autopsie. Un procureur n'est pas d'accord, il résiste, et évidemment cette résistance va lui attirer les foudres de la police anticommuniste. On est dans les années 80, on est sous un régime un peu beaucoup dictatorial quand même, et une machine va se mettre en place, il va y avoir des conflits, les journalistes vont s'y intéresser, et ça va monter crescendo jusqu'à... des grandes manifestations dans le pays et qui vont aboutir un peu plus tard aux élections, au suffrage universel, enfin aux élections directes du président de la Corée du Sud. Alors ça, si on ne connaît pas l'histoire, on ne le sait pas direct. Mais au départ, oui, c'est d'abord une affaire de... c'est presque une affaire de gangster, j'ai envie de dire, une affaire de rapport de force dans l'administration, hein, au départ.
Ouais, et c'est aussi voilà, une question de contexte. Nous, on y allait sans forcément savoir de quoi ça parlait. On avait lu le synopsis, on savait pas trop si ça allait être un film d'espionnage, un film. Enfin voilà, même moi personnellement, je crois que toi non plus, je connaissais pas du tout le climat, moi, en Corée du Sud en 87, je m'en rendais même pas compte. Enfin, on savait qu'il y avait des tensions avec la Corée du Nord. D'ailleurs, au début, ça portait comme ça. Enfin, la police dit qu'en gros, ils ont arrêté sûrement un communiste qui s'apprête à passer au Nord. Et on se rend même pas compte qu'en fait, c'est une dictature militariste. Et qu'il y a aussi le combat d'un peuple qui veut sortir de ça. Pas forcément passer au nord. Donc voilà, du coup, on se retrouve dans un contexte qu'on connaissait pas et ça a apporté des enjeux qui étaient assez intéressants. C'était très politique, à la fois sans trop faire de moralisme. C'était hyper intéressant dans le sens où justement, on arrivait très rapidement à s'identifier au personnage. C'était très bien amené, c'était très bien écrit. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'engouement en fait. Il se passe énormément de choses. Il y a beaucoup de personnages. Il y a beaucoup de sentiments contraires. Même si on se doute bien qu'il y a un parti pris assez prononcé, on prend quand même le temps de nous expliquer aussi comment fonctionne cette police anticommuniste. Quelles sont les raisons d'agir comme ça. On a un ministre qui justement va à un moment se justifier par des propos par son enfance et qui parle justement du fait que on n'a pas tous vécu les mêmes choses. Il est pas ministre ?
Non, c'est juste le chef de la police.
C'est juste le chef de la police, ouais, d'accord. Moi, je pensais qu'il a l'air replacé parce qu'avant, justement, on disait qu'il était trop placé auprès du gouvernement, qu'il avait l'accord du président et que lui, il pouvait survivre un petit peu à tous les monarques qui se succèdent.
C'est une sorte de. Il y a les RG, mais il y a aussi la police anticommuniste qui est une sorte de DST. Voilà, hein, donc les mecs, ils font un peu ce qu'ils veulent. Hein, et d'ailleurs, c'est bien ça le problème, c'est que les mecs font ce qu'ils veulent et respectent pas les lois. Et c'est pour ça qu'il y a des oppositions à ça. Tu disais ce personnage-là, le directeur de la police anticommuniste, qui est assez brutal et monstrueux, quoi. C'est peut-être le personnage central du film, finalement. C'est le principal antagoniste. C'est un peu autour de lui que va tourner le film. Même si c'est tout de même un film choral avec une palette de personnages excellents. Finalement, ils ont tous quelque chose. Ils ont tous une histoire, ils ont tous un background. On a un beau film. C'était une belle surprise. On ne s'attendait pas à quelque chose qui se tient et à une telle mosaïque. Aussi bien composé. Voilà, c'est un film qui a un gros succès en Corée, semble-t-il, et c'est un succès mérité, je pense, parce que c'est un film de grande valeur. Voilà.
Tout à fait.
Bon, alors, la fin a l'air un peu idyllique, un peu, et ça a l'air d'être une belle fresque où tout le monde lutte contre la dictature, de l'aveu même du réel qui était là sur place. ça s'est pas exactement passé comme ça. Hein, ça a été un peu romancé, faut repasser les choses un peu. Il a dit, ouais, je voulais pas montrer que ça soit tout beau, tout fini après ça. Si, quand même un peu, mon gars. Du coup, tu t'es raté là-dessus, c'est dommage. Bon, il n'en demeure pas moins que c'est un excellent film. Et notre coup de cœur, si jamais il passe un jour en France, allez-y. À présent, nous abordons une comédie un peu particulière, Hello Dayong. Hello Dayong de Ko Bong-soo, 2018, 1h02.
Ouais, alors une comédie particulière puisqu'elle est, de toute façon comme on a pu le voir là dans l'abondance, on a que de la musique. C'est une comédie qui est entièrement en noir et blanc et muette. Et qui en plus va prendre le parti pris de ne pas du tout montrer de carton de dialogue. Donc tout est basé sur des jeux de regard. Il y a quelques dialogues en fond qu'on peut imaginer mais on ne les voit jamais, on ne peut jamais savoir ce que les personnages se disent. Donc ce qui est intéressant c'est que ça en fait un film international en fait au final. Tout le monde peut comprendre ce film, tout le monde peut se laisser porter. Il y a trois thèmes de musique qui reviennent et qui vont du coup juger les émotions qui vont se passer au fur et à mesure et nous emporter. Et même si, et pourtant ça ne dure qu'une heure deux, même si c'est un film assez court, ça semble des fois un petit peu long puisque ça finit par tourner en rond à un moment et c'est à peu près le ressenti qu'on en avait eu. Mais j'ai trouvé ça assez brillant dans l'ensemble.
Un pari, c'est vrai qu'on n'avait pas vu ça depuis des années. Hein. C'était quoi ? C'était The Artist, je crois. Film noir et blanc, complètement muet. Donc ça joue beaucoup sur le burlesque, c'est une comédie, purement comédie pour le coup. Avec une satire quand même des rapports au travail, mine de rien. Il y a un message sur le rapport au travail. Évidemment, pour que ça soit visible et que ça soit compréhensible, les traits sont grossis, c'est burlesque, mais ça marche parfaitement. Le problème, tu le dis, le film est court, il fait seulement une heure. Et puis c'est déjà long et on sent qu'il s'essouffle en fin de film, il a du mal à finir, il a du mal à continuer. Hein. Le dernier quart d'heure, c'est poussif quand même.
Après c'est normal puisque le film en soi, même s'il y a, il y a un texte de fond qui est la satire et les rapports au travail, au final il raconte pas grand chose, tout se passe dans un open space où on va voir voilà, des personnes, en gros ça raconte l'histoire d'un livreur qui est amoureux d'une jeune fille qui... a priori est une sorte de stagiaire, une sorte de nouvel employé d'une entreprise. Et il essaye, lui, pour la séduire, il décide de démissionner de son travail et de se faire engager pour la soutenir parce qu'il se rend compte qu'on ne la traite pas forcément très bien. Et voilà, tout va être basé sur le fait qu'il va essayer de faire son travail à sa place parce que les autres employés passent leur temps à aller boire des verres en laissant le travail à cette pauvre fille, en lui mettant un pseudo CDI atteignable sous le nez, en lui disant « t'inquiète pas, on va t'engager », mais au final, il la traite un peu comme leur esclave au final. Et voilà, donc ça raconte que ça. Donc forcément, ça va vite tourner en rond. Après, c'est ce que tu disais, c'est très burlesque, c'est très gaguesque même. T'as des côtés, par exemple, t'as un des personnages qui est aussi, on va dire, légèrement au-dessus donc, des deux personnages principaux, mais qui est un petit peu en dessous des autres. Donc c'est le subordonné qui, lui, va justement remettre la pression qu'on lui met sur, sur ce livreur qui devient du coup... homme à tout faire, nettoyeur. C'est vrai qu'à chaque fois, par exemple, quand il y a des messages, il y a un massage où il est en sueur parce qu'on le regarde travailler. Et alors, ça passe de la goutte de sueur à il y a vraiment des flots qui lui tombent sur le visage. Donc, tout est très grossi pour que justement, déjà, ça nous apporte le rire. Et ça fonctionne extrêmement bien. Les acteurs sont très bons. Ils ont des mimiques fantastiques. Ils ont tout le temps des têtes extrêmement expressives. Tout passe par là. Ça passe par. Voilà, c'est du gag. Ça fait très Buster Keaton des temps modernes au final. Et c'est assumé dans le sens où justement les traits sont toujours grossis, les gestes sont toujours accélérés. Et c'est très marrant dans ce sens-là.
Hello Dayong, une bonne surprise. Allez, et là maintenant on va parler de Une fleur d'enfer, un film de Shin Sang-ok. De 1958, un film d'une heure et demie. C'est l'histoire d'un jeune homme qui débarque de la campagne dans une ville pourrie par le péché et la criminalité. Il retrouve son frère, qui est homme de main dans un gang, on va dire, et qui est maqué avec une prostituée, et qui trempe dans divers trafics, notamment en lien avec les bases américaines qui sont en Corée, puisque nous sommes dans les années 50, peu de temps après la guerre de Corée. Un classique du cinéma coréen. Qu'est-ce que tu en as pensé, mon cher Thierry ?
Alors, c'est vraiment très très vieux. Et puis même la façon, c'est ce qu'il disait au début, la copie qu'on a vue n'est pas excessivement restaurée. Donc du coup, on a quand même eu affaire à une copie qui n'était pas en très très bon état. Il y avait énormément de grains, il y avait énormément de choses. Donc ça apporte un cachet. Mais je pense que c'est un film qui est très intéressant quand on est coréen en fait, quand on est coréen, qu'on a envie de s'intéresser à sa propre histoire, mais je pense que pour un public étranger, c'est assez, j'ai pas envie de dire insipide parce que ça me paraît fort comme mot, mais moi c'est vrai que ça m'a absolument pas atteint parce que bah, c'est pas du tout mon histoire, je me suis pas du tout senti concerné et je n'ai même pas forcément senti de climat ou de tension d'époque, peut-être parce que je ne l'ai pas vécu, parce que je ne l'ai pas étudié.
Moi, je pense pas qu'on puisse pas s'intéresser à un film parce que c'est pas notre culture ou notre histoire. Sinon, on regarderait pas des films américains. Moi, j'ai trouvé ce film assez intéressant. Alors oui, effectivement, c'est un film des années 50 en noir et blanc. Question rythme, on a changé hein, quand même depuis. C'est vrai que c'était un peu lent. C'est vrai que ça a été assez dur de tenir un peu, de rester éveillé pendant tout le film. C'est vrai. Néanmoins, j'ai trouvé ça quand même intéressant dans l'efficacité et dans la symbolique. Rien que la scène d'introduction, on a le décor, l'ambiance générale et le caractère du personnage principal qui sont posés en une scène. On a une efficacité, on a aussi beaucoup de symbolique. Certes, c'est un peu donneur de leçons, les pêcheurs finiront traînés dans la boue et mourront de manière misérable. Et quand même, l'innocence s'en sort malgré tout. On est sur du gros classique, mais enfin, un film qui marche bien, un film intéressant à voir. Non, je pense que ce n'est pas à exclure. Bon, évidemment, par contre, il faut avoir bu son café avant, sinon ça va être compliqué. Allez, et ce quatrième film de la journée, The Great Battle. Un film de King Wong-sing de 2018, un film de 2h15, un film de baston en costume. Et pour affronter la horde de Chinois qui veulent envahir la Corée, nous avons reçu un renfort. Salut Alex.
Salut.
Tu aimes les films de baston?
Bah écoute, en général oui, et celui-là tout particulièrement pas, parce que, comme son nom l'indique, hein, The Great Battle, ça parle d'une grande bataille, donc il faut imaginer en fait le troisième volet du Seigneur des Anneaux, mélangé avec Pearl Harbor, Tigre et Dragon. En fait c'est 2 heures de grande bataille, avec du bien, hein, sincèrement, il y avait une partie stratégique qui, il y avait un côté un peu plus athénien qu'autre chose, mais il y avait une vraie partie stratégique qui était vraiment intéressante, on voyait quand même un combat constant pour repousser l'ennemi. Après, en termes de narration, c'est pas non plus folichon. On a les Coréens qui essayent de survivre face aux vilains chinois qui essayent d'atteindre la Corée, et le dernier bastion qui est Anchi, est tenu par ce que les Coréens considèrent comme un traître et qui en fait s'avère être un gentil. Et donc on suit le parcours d'un jeune cadet qui va justement tuer cette personne et qui finalement se rend compte qu'il est bon et il va se battre avec lui, et c'est à peu près tout. Après le reste c'est une grande bataille. Voilà, il faut le voir comme ça. Donc est-ce que c'est bien et à conseiller? Je dirais pas ça. Après, si c'est gratos ou si vous avez envie de vous faire une grosse baston toute la soirée, n'hésitez pas.
Thierry acquiesce. Thierry fait oui de la tête.
Moi, j'ai un rapport assez conflictuel avec les films de baston. Quand je dis films de baston, vraiment en costume d'époque et tout ça, ça me plaît pas. C'est pas un cinéma qui me plaît. Le dernier que j'ai vu, c'était La Grande Muraille de Zhang Yimou, que j'ai trouvé mais affreux de bout en bout. Alors, en tant que grand amateur de Zhang Yimou, j'y étais allé justement en me disant « Ah, peut-être qu'on va retrouver un peu une fresque à la Hiro, Tigre et Dragon, de la cape et d'épée, comme j'aime bien, quoi. » Et non, il y avait juste Matt Damon, du CGI et un mur, quoi, et c'était absolument affreux. À cause de ça, je suis pas allé voir des films de Tsui-Hark, qui avaient l'air d'être des films un peu plus intéressants, parce que le mec est quand même un sacré bon cinéaste. J'ai essayé de renouer avec ce genre, et j'ai pas envie de le refaire à nouveau pendant très longtemps. J'ai trouvé ça manichéen à souhait, et dans le sens même les exagérations de traits, la façon dont il a dirigé ses personnages. Je veux dire, il fait parler tous les Coréens avec des voix assez angéliques, douces, alors que tous les Chinois parlent soit avec des voix très au perché, dégueulasses, soit très graves et très forts, parce qu'on est des gros méchants très durs.
Mention spéciale à l'empereur qui parle comme un robot, c'est ça.
Mais après, peut-être qu'il parlait comme ça à l'époque, c'est pas dit que c'était pas une façon de s'imposer.
Non, dis l'empereur, quel est le plan? Le plan est d'attaquer.
Non, voilà, donc c'est, du coup, c'était complètement bourré d'archétypes tout le temps. Les personnages sont absolument pas définis. Il y a les gentils, il y a les méchants, et c'est tout. On a eu un débat à la fin avec le réal et les gens posaient des questions sur comment vous avez travaillé les personnages, mais il les a pas travaillés, ces personnages. C'est vraiment toi, gentil général, toi, gentil soldat, toi, gentil homme qui manie la hache et qui va faire des blagues avec l'autre.
C'est vrai qu'on a tous les archétypes, on a même le nain et l'elfe. Parce que tu dis le mec à l'âge, c'est un mec bourru qui est un gros bourrin, et son copain qui, avec lequel il s'entend pas, c'est un mec tout fin qui est très agile et qui se bat à l'épée. Alors il a pas d'arc parce que l'arc c'est réservé pour le chef, mais grosso modo on avait Legolas et Gimli qui se mettaient des pains. Alors c'est pas vrai. Il y a le gentil général, il y a le gentil chef de la cavalerie qui se tape la gentille sœur du général. On a le gentil héros naïf qui doit être chanteur de K-pop parce qu'il a un traitement particulier, il est tout beau et tout beau. On a aussi une star de la K-pop aussi, qui d'ailleurs j'ai pas compris laquelle c'était.
C'était Becca, c'était celle qui jouait juste la sœur gentille du général des gentils qui se tape le chef de la cavalerie des gentils.
Voilà. Et qui est super badass parce qu'elle se bat à l'arbalète à d'autres chevaux. Et elle est libre puisqu'elle peut sortir avec qui elle veut, évidemment. Tout est aseptisé, donc le scénario est aseptisé, l'image est aseptisée, c'est de la ultra HD mais ultra lisse avec un grain qui rend mal à l'aise, qui rend vraiment mal à l'aise. Autant en extérieur ça passe un peu, autant dès qu'ils sont en intérieur c'est tellement lisse que c'est presque brillant quoi. Ça fait fake alors qu'ils sont juste en train de filmer à l'intérieur et je pense qu'ils n'ont même pas d'écran vert sur les scènes d'intérieur. C'est assez surprenant tellement c'est numérique sur un truc, sur quelque chose en costume, ça dénote tellement que ça met mal à l'aise.
Alors, dans les intentions de réalisation, il a voulu jouer un peu avec le gigantisme. Ce qu'il disait, c'est qu'ils avaient engagé 10 000 figurants.
Alors, c'est quand même un film pour le présenter. On avait le réalisateur et le producteur, sachant que le réalisateur, c'était son deux ou troisième film.
Ouais, deuxième ou troisième film choisi spécifiquement par le producteur. Peut-être qu'il voulait faire un Yes Man. Après, Richard disait, en fait, dans les intentions, donc il y a du gigantisme par cette espèce d'énorme forteresse qui vont. En fait, le seul truc qui est appréciable dans le film, c'est la stratégie que les gentils vont utiliser. Puisque
ça,
du coup,
c'est un classique du genre de bataille. En général, les assaillants veulent attaquer, mais donc ils ont une ruse pour attaquer et le mec en face a une ruse pour contrer la ruse du mec en face.
La ruse était plutôt pas mal. Enfin oui, donc du coup, voilà, il y a une idée de gigantisme où les mecs ils vont quand même reconstruire une forteresse humaine devant eux et compagnie. Donc il a voulu jouer énormément avec ça. Mais alors le problème, c'est que autant ouais, comme tu disais, l'image est ultra lisse. Mais même la réalisation, c'est-à-dire toutes les scènes de baston, c'est que t'es à mort, on ne voit rien, il n'y a jamais de moment de grâce dans la caméra, les explosions, alors vas-y que ça boum en premier plan, vas-y que ça boum en gros plan, on fait des gros plans gore sur des bras qui se font éclater, enfin, j'avais fait un parallèle à un moment où justement, déjà au tout début on voyait un plan qui était déjà dans Hiro de Zongimu, c'est pour ça que ça m'avait fait penser quand j'avais vu des images du film, c'est la nuée de flèches qui est suivie par la caméra, et à la fin justement il va tirer une flèche sur le méchant empereur, gna gna gna, alors que l'empereur est super loin, c'est la flèche unique, la seule qui peut l'atteindre, il faut qu'il la réussisse. À la limite, histoire que ce soit bien vu le gosse, il aurait pu suivre la flèche tout du long. Mais non, il nous fait carrément un plan où, quand la flèche atteint sa hauteur zénitale, c'est au ralenti avec un espèce de panneau dégueulasse, un ting brillant sur l'aiguille de la flèche. Ça m'a fait penser à la bombe dans Pearl Harbor, en fait. L'espèce de plan ralenti sur la bombe qui va tomber sur la station. Mais voilà, en fait, la réalisation, c'est du niveau Michael Bay. À la m'as-tu vu, regarde comme ça pète de partout. Et regarde, il y a du sang, c'est dégueu.
Oui, ça joue un peu avec une physique qui n'est pas vraiment terrestre. Quoi, hein. Les mecs font des acrobaties quand ils se bastonnent. Ils font exploser des fioles d'huile, hein, quand même. C'est très, très, très balèze. Ils font s'enflammer en 2 secondes des tours de siège. Les mecs sont très, très forts. Hein. On a affaire à des experts là-dessus.
En plus, alors je sais plus si c'est le réal ou si c'était le... Non, je crois que c'est le réalisateur qui a dit ça, qu'il s'était énormément renseigné sur la période, alors que même les mecs eux-mêmes disaient qu'ils n'ont pas trouvé grand-chose, qu'ils ont trouvé des archives ridicules sur ce qui s'était passé à cette période et qu'ils ont un peu brodé autour. Alors je pense qu'ils ont beaucoup brodé autour, quoi, et qu'ils doivent vraiment avoir eu aucun rapport historique de ce qui a pu se passer là-bas, parce que là, tout semble tellement gros, tellement ridicule, tellement... Voilà, je pense qu'ils sont vraiment à 100 lieues de ce qui a pu réellement se passer et que le degré historique qu'il peut y avoir là-dedans mais doit être absolument minime.
Ouais, d'autant que... Alors, je ne suis pas un expert et je ne connaissais pas l'histoire avant de voir le film, mais de ce que j'ai compris en discutant et en entendant les questions-réponses pendant le question avec le réalisateur, On lui a posé la question, est-ce que c'est un film de propagande, le peuple coréen vainqueur sur le peuple chinois, en cette période c'est un peu d'actualité. Il disait non, non, on n'a pas voulu faire ça, absolument pas, on a voulu être historique, faire une histoire. Bon, c'est quand même une baston entre la Chine et la Corée. Un gros siège, les Chinois sont vraiment, sont à quoi ? Ils sont à 200 contre 1 à peu près, hein, le rapport de force c'est ça. Et donc les Coréens tiennent et remportent la bataille. Et de ce que j'ai compris, bon, ils ont gagné cette bataille-là, c'est vrai, mais peu de temps après, les Chinois sont revenus, ils leur ont rasé la gueule. Donc, et ils ont perdu cette région.
Et ça, on nous le montre pas, alors qu'à la fin du film, il dit clairement que l'empereur lui-même aura dit à sa lignée, surtout n'attaquez pas cet endroit.
Non, les mecs, ils reviennent juste après, ils prennent tout. Hein. Donc oui, oui, c'est orienté, oui, c'est un peu manichéen. Voilà, on l'a compris. Hop, on continue avec le festival du film coréen de Paris. On est devant le ciné, on est entre deux films là, voilà. Donc là, il y a un peu de bruit par rapport à la dernière fois où on avait trouvé un coin à l'intérieur tranquille. Allez, là, on parle de Believer. Un film de Lee Ah-young, un film policier. Un film policier, alors c'est l'histoire d'un inspecteur de police qui enquête sur un réseau de drogue et qui cherche un mystérieux monsieur Lee. Alors c'est pas le même monsieur Lee qui réalise, hein, attention. Ben non, c'est réalisé par Lee Ah-young et il cherche un mystérieux monsieur Lee, voilà.
Je sais, bon alors le réalisateur a envie de se faire mousser, est-ce qu'il aime bien son nom ?
Ah peut-être, je ne sais pas. Et donc il s'associe avec un jeune dealer qui a été trahi par le réseau et qui cherche à se venger et qui accepte de l'aider pour s'infiltrer dans le réseau, voilà. Alors là, je vous dis ça parce que c'est ce qu'on a lu dans le synopsis. Et finalement, c'est la seule partie du film que j'ai à peu près compris au départ. Parce que c'est un scénario hyper alambiqué.
Ouais. Et en plus, c'est que ça semblait très simple au début. Enfin, toute l'exposition, en fait, c'est bon, il n'y a aucune exposition au final. C'est en gros, le mec, il est dans une salle, il arrête un gars. Ah d'accord, ah ça doit être lui le gentil. Ah, il sauve quelqu'un. Ah, il y a une morte. Ah d'accord, donc c'est des grands méchants, ils ont l'air dangereux. Ok, partons là-dessus. Et en fait, non, plus ça, plus tu fais « Oh, c'est touffu. Oh, que c'est touffu. » Et le problème, c'est que vu que chaque scène saute l'une sur l'autre sans jamais expliquer ses tenants, ses aboutissants, sans jamais nous poser quoi que ce soit, on ne capte jamais rien à ce film.
Je n'ai rien capté. À un moment, ils font une scène d'infiltration. Ils vont voir... justement, ils vont voir un mec, on ne sait pas qui c'est, on sait juste que c'est un mec dangereux. Et la fois d'après, ils vont voir un autre mec, mais en fait, il se fait passer pour le mec qu'il a vu juste le flic se fait passer pour le mec qu'il a vu juste avant en infiltration. C'est le foutoir. Heureusement, alors il y a 2-3 scènes d'action pour se réveiller un peu. On se doute qu'ils sont tombés sur des méchants, mais c'est même pas les bons méchants. On ne sait pas comment est-ce qu'ils sont arrivés au mec. C'est le bordel dans le scénario. C'est incroyable. Il y a quand même des trucs bien. C'est-à-dire qu'il y a de beaux paysages au début et à la fin. Il y a de magnifiques paysages enneigés.
C'est très cinématographique dans les échelles de plans. Il y a énormément de... Enfin, les plans sont très beaux. C'est quand même bien mis en scène. Ça va. Après, il y a des facilités pour pouvoir apporter des moments. Tu sens que le mec, par exemple... Exemple à la con, à la fin. Bon, souvent, généralement, c'est un polar. Donc, ça va beaucoup se battre à l'arme à feu. Il y a un passage où ils arrivent. Des gars sont planqués dans un ascenseur, balancent des lacrymos. Donc du coup, les gars n'y voient rien. Donc là, ben, on peut rien faire d'autre que du kung-fu, quoi. Et c'était un prétexte qu'ils s'étaient dit, tiens, j'ai envie de filmer du kung-fu. Je vais faire en sorte qu'ils y voient rien, qu'ils puissent pas utiliser leur arme. Comme ça va faire du corps à corps. Et ça semblait la facilité de mise en scène. Et j'étais là, bon, là, c'est un peu malhonnête, les gars, quoi.
Ouais, mais il y a la scène de gunfight, il y a la scène de combat, il y a même la scène de combat de filles aussi.
Ouais. Il y a la scène de combat de filles, quoi.
Voilà, parce qu'il y a une fille de chaque côté. Alors, c'est pas de tout le film, on ne sait pas trop ce qu'elles font là, mais non, c'est juste pour la scène de baston de filles vers la fin du film. Alors, de ce que j'ai compris, c'était une grosse prod quand même, mine de rien.
Ouais, a priori, tous les
5 millions d'entrées en Corée, voilà, avec des stars en tête d'affiche. Ouais, ben, ça n'a pas été très convaincant comme film.
pas du tout, malheureusement. Et en plus, alors moi j'en ai pas vu non plus 3 tonnes, mais pour avoir déjà vu des polars coréens, c'est pas comme s'ils avaient 20 ans de retard, hein, c'est pas le cas. Donc on a l'impression que le film a 20 ans de retard. Moi, j'ai, enfin, au niveau des facilités scénaristiques et le côté on a besoin que ça avance, il durait combien de temps? Un peu plus de 2 heures. Et j'ai trouvé ça assez affolant en fait, parce qu'on avait l'impression que le film allait durer 1h20 et qu'ils avaient besoin de tout rusher pour pouvoir nous amener aux endroits où ils voulaient, sauf qu'ils avaient 2 heures, donc ils avaient largement le temps de développer. Et ça m'a fait penser à une scénarisation presque d'un épisode de Polar français dégueulasse à la Julie Lescaut, quoi. C'est en mode tiens regarde, méchant, gentil, allez on se bat.
Ouais, ça se bat un peu plus que dans Julie Lescaut quand même.
Un peu plus, enfin c'est plus crédible on va dire.
Bon bref, vous l'avez compris, nous ne croyons pas en Believer. Donc on est toujours au festival du film coréen de Paris, devant le Publicis. Je suis avec Alex et Charlotte, et Thierry a eu un petit souci, donc il a un petit contre-temps, il ne sera pas là. Oui, ça parle de réincarnation, et c'est le genre de truc sur lequel il est un peu touchy, il a des trucs à se,
il aurait des trucs à
se faire pardonner. Il a peut-être des trucs à se faire pardonner, alors on va ça pas trop parler bien. Réincarnation. Bon, on a parlé réincarnation avec le film Along with the Gods, The Two Worlds. Le premier volet d'une série de films coréens, série de films à gros succès, parce que ça a fait quand même 14 millions en Corée, hein, petit succès,
petit,
et c'est un film qui bastonne beaucoup, avec beaucoup d'effets spéciaux.
Je suis pas un guerrier.
Qu'est-ce que c'est? Alors c'est l'histoire d'un pompier qui meurt pendant une intervention. Les gardiens, les esprits gardiens, les gardiens des esprits, je ne sais pas trop, les Shinigami, mais bon ça c'est japonais. Donc ça va trop. C'est la version coréenne des Shinigami. Viennent le chercher et donc doivent l'escorter pour le procès de son âme. Elle doit être jugée pour savoir s'il va être réincarné ou pas. Y arriveront-ils? Sera-t-il réincarné? A-t-il l'âme assez pure? Vous le saurez en allant voir Along with the Gods. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film, dis donc, un grand spectacle?
C'est un grand spectacle. C'est un grand spectacle à blockbuster. Enfin, c'est plein d'effets spéciaux, plein de violons, plein de moments forts et enfin... Voilà, c'est un bon divertissement, on va dire, c'est intéressant, et moi j'ai bien aimé, oui, voilà, moi j'ai bien aimé, c'était un bon moment, un samedi d'après-midi, c'est on regrette pas, quoi, c'est, voilà. Mais on sait qu'on va regarder un gros film, voilà, qui envoie du lourd, on va dire, comme ça.
Un film qui envoie du lourd, effectivement, Alex.
Alors, c'est un film à gros budget, oui, un blockbuster, oui, coréen, oui, donc on prend du plaisir avec un petit côté un plus exotique, on va dire, qui change pas mal. Beaucoup d'effets spéciaux, ça c'est sûr, en même temps on est en enfer, hein, chaud ici de le faire. Cela étant dit, il y avait des choses intéressantes, ils se sont beaucoup inspirés de l'Enfer de Dante, j'imagine, en tout cas pour Inferno, pour resituer, on va dire, les 7 cercles. Alors, ils l'ont fait à leur sauce, hein, si j'ose dire, sans mauvais jeu de mots. Mais voilà, après, ils sont partis sur un enchevêtrement de situations entre le réel et ce qui se passait en enfer, où, justement, le héros, qui n'est... devait expier ses péchés, s'expliquer devant chacun de ses péchés. Bon, après, c'était extrêmement mièvre, on va pas se mentir. Hein. Donc, en fait, il faut le considérer comme un blockbuster pour amoureux, où c'était très agréable à partir du moment où on est à deux en couple, voilà, parce que c'est débauche de violon, je me suis retourné, j'ai regardé tout le monde qui pleurait derrière moi, donc voilà, j'avais envie de pleurer moi aussi. Mais voilà, donc c'est un bon moment pour deux, ou trois, si ça vous chante. Après, si vous êtes tatillon, n'y allez pas, parce que ça parle, c'est assez léger en termes de narration, de comment je pourrais dire ça.
Ouais, c'est léger en narration, c'est léger en beaucoup de choses.
Oui.
Mais c'est
oui,
ça,
oui.
Il y a du sirop, hein. C'est pour le grand public.
C'est édulcoré, voilà.
C'est édulcoré, hein. Non, moi j'ai aimé le fait que ça nous change un peu des super-héros. Hein, on a beaucoup d'effets spéciaux, il y a du fond vert dans tous les sens et du numérique, hein, ça faut le dire. Mais ça nous change un peu des super-héros Marvel,
hein,
ou DC ou tous les autres. Donc là on est pas mal là-dessus, c'est de la réincarnation, c'est bouddhique, hein, je crois que c'était la religion bouddhiste. Donc les sept cercles, c'est peut-être, je ne m'y connaissais pas assez en bouddhisme, donc je ne pourrais pas dire si les sept cercles correspondent à ça. Techniquement, ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd, même si dès que ça bouge un peu, ça devient flou et on ne voit plus grand-chose. Hein. Dès que ça bouge un peu, ça perd en lisibilité, ça perd en précision aussi. Par contre, dès qu'on est sur des panoramas, dès qu'on est sur des grands décors, là, ils peuvent se poser.
Voilà. On laisse respirer.
Là, on respire, on peut se poser. C'est vrai qu'après, en termes de rythme, là, c'est quand même un film qui fait ses 2h30, hein, ses 2h20.
C'était un peu long.
Hein. Moi, je les ai sentis passer, surtout dans les moments un peu mièvres. Voilà. Après, ça a du succès. Il y a un deuxième volet qui est sorti cet été. C'est un film de 2017, il y a un deuxième volet cet été. Je pense qu'il marchera en Corée. Je ne sais pas si ça marcherait en France, un truc comme ça.
C'est dit Corée, difficile. Mais c'est pas... Ouais.
Difficile. Si t'es ouvert, oui. Après, ça reste quand même c'est du cinéma asiatique avec tout ce que ça importe. Beaucoup de violons. Du mal à finir les films. J'ai l'impression que souvent, en tout cas sur les films coréens, ça arrive souvent. Du mal à finir les films. On enchaîne sur une autre scène alors qu'on pensait que c'était la dernière. Et puis une autre, et puis une autre. Et puis encore du violon.
Ça, à la limite, c'est un écueil qu'on trouve dans beaucoup de films de super-héros aussi.
Ouais.
Donc je vais pas dire que c'est la faute au film coréen.
Après je sais pas, je pense que ça c'est peut-être enfin il y a justement le côté un peu asiatique où on fait réfléchir, où le héros en fait a besoin de réfléchir sur ses propres péchés, sur ses propres défauts et tout ça, et en France je pense qu'on aime plutôt le côté du héros un peu du vrai héros quoi, on va pas dire de...
Qui se pose pas de questions.
Ouais voilà, qui se pose pas de questions, qui fait, qui sait qu'il est dans son chemin, qui fait les bonnes choses et tout ça, et là bon on voit qu'il y a quand même un petit peu de travail psychologique du héros qu'on retrouve pas dans forcément des films à succès beaucoup en France, je trouve. Mais c'est que mon opinion.
Oui, alors après, c'est vrai que sur le rythme, disons qu'il doit être, son âme doit être jugée par... il doit traverser sept cercles de l'enfer et chaque fois il est jugé, donc chaque fois il y a un procès. Et les scènes de procès sont parfois un peu longues. Hein. Des fois, c'est un peu mal fichu ou des fois c'est un peu long.
Long et très dirigé.
Oui, ouais, c'est ouais. Ça, parce qu'on se doute bien qu'il va aller jusqu'au bout du dernier procès.
Bah, donc, sinon, il n'y aurait pas de film, quoi.
Voilà. Un peu,
Il y a des moments qui auraient pu être un petit peu plus courts. C'est vrai. Il y a des moments où bon, on sent qu'on en rajoute pour le téléspectateur, pour le voilà, pour la personne qui est venue regarder et qui a envie qu'on allonge un petit peu. Quoi. Mais comme disait Alex, de temps en temps, la fin, au moment de la fin, c'est vrai que bon, bah, on croit que c'est la fin une ou deux fois en fait.
Merci Charlotte, merci Alex. On va passer au film suivant et peut-être que Thierry va nous rejoindre. Je ne sais pas, ça sera la surprise. Et on continue avec un gros succès du cinéma coréen, Case to the Heart. Un film alors avec une distribution relativement connue, puisqu'il y a notamment Lee Byung-hun. Alors là, le nom comme ça vous dit rien, mais si vous avez vu Le Bon, la Brute et le Cinglé, vous l'avez peut-être vu. Sinon, dans les films, sinon il est souvent dans les blockbusters américains, notamment dans G.I. Joe, il joue le ninja. Voilà. C'est pour vous repérer. Je sais que c'est pas très glorieux, mais ça donne une idée à peu près. Et il joue dans plein de films coréens. C'est un grand acteur quand il fait pas des blockbusters américains. Petite bande-annonce. C'est l'histoire d'un boxeur de la quarantaine qui retourne vivre chez sa mère et qui découvre son demi-frère qui est autiste et surdoué en musique. Il va devoir cohabiter avec eux alors qu'ils ne sont plus en lien depuis des années. C'est une... comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Une comédie, un drame?
Dramatique, hein. Ouais. Comédie dramatique, ouais.
Ah ouais. Carrément.
Carrément. C'est aussi un film musical en grande partie puisque c'est quand même très centré là-dessus. On a quand même affaire à un autiste de niveau 2. Donc la particularité redis-moi le nom du personnage parce que je vais y perdre. Oui, de Jin Tao.
La caractéristique de Jin Tao.
Tao, c'est donc en fait qu'il est capable au piano, surtout au piano, de reproduire les mélodies qu'il entend sur YouTube et qu'il mimétise en fait naturellement. Donc ce qui fait que il n'a pas d'interprétation particulière, c'est quelqu'un qui reproduit de manière robotique ce qu'il entend sans avoir eu la moindre formation au piano et qui est capable donc de tout à coup caler du Rachmaninov s'il en a envie et donc d'être un véritable virtuose sans réellement en avoir conscience puisqu'il est vraiment il a une forme d'autisme qui en tout cas est très avancée.
Alors nous on appelle ça l'oreille absolue mais tous ceux qui ont l'oreille absolue ne sont pas autistes.
Tous ceux qui ont l'oreille absolue n'ont pas forcément le niveau pour jouer ça. Hein.
C'est pas
Donc oui, il est très très doué.
Voilà, donc c'est une histoire entre deux frères, entre il y a trois thèmes, il y a le rapport au père, le rapport à la mère, le rapport à la fratrie. Et le rapport à la famille aussi, puisque du coup ça va être donc l'histoire de ce boxeur en repentance qui a beaucoup de colère, qui essaye de s'en sortir, qui essaye de revenir sur on va dire une bonne voie, mais qui n'est pas aidé justement parce qu'il a besoin de gens pour le soutenir, et tout ce qu'il a au final qui s'attache à lui, c'est un frère autiste avec qui il peut pas vraiment communiquer. Il va se rendre compte que son frère a cette passion là et qu'il va essayer de le pousser là dedans et c'est ce qui va rendre le truc assez, assez beau. C'est très très beau. Alors le cinéma coréen a tendance, là on sort de notre truc et on pourra en parler, a tendance à en foutre 3 tonnes tout le temps. Et là, même en mettant quand même pas mal, il y a quand même pas mal de violon, c'est quand même très sentimental, c'est quand même très basé sur, voilà, sur l'amour, la fratrie, la famille. Et bah ça va, ça passe super bien parce que c'est toujours très très juste.
Ouais, et sinon faut saluer la performance de Park Joon-min qui joue donc le frère autiste et pianiste. Et très impressionnant, alors déjà dans sa performance d'acteur, mais également dans les performances de piano. Là, on filme directement le piano, on a directement une caméra, un plan direct sur les doigts. Ça va vite, c'est très très impressionnant.
Mais comme tu le disais, soit il est pianiste, et auquel cas le mec est un très très bon pianiste, et j'imagine qu'il a forcément une carrière à côté là-dedans, parce que c'est pas possible autrement, il peut pas être qu'acteur ce gars. Soit ils ont travaillé ça comme des tarés, et il a une capacité de mimétisme qui est assez folle, parce que voilà, moi personnellement je joue un tout petit peu. Alors j'ai pas ce niveau-là, je peux plaquer des accords, jouer 2-3 mélodies, donc le placement des doigts, ça va, enfin quand tu me montres un clavier et quelqu'un qui joue, je peux te dire s'il joue pas, et là t'as vraiment l'impression qu'il joue, c'est hyper impressionnant, et surtout des choses extrêmement complexes, et il n'y a aucun moment où on a l'impression que le mec va vite parce que c'est censé aller vite, non, on a vraiment l'impression que le mec est en train de jouer la mélodie, donc soit il le fait, soit il le fait pas, mais en tout cas, t'as l'impression réelle quoi, c'est impressionnant.
Ah oui, mais c'est tellement bluffant. Disons que si on mettait Ryan Gosling dans La La Land à côté, t'as l'impression qu'il est en train de réviser la méthode Rose, tu sais, le truc béaba.
Alors que pourtant, enfin, le premier sentiment qu'on a vu en sortant de La La Land, c'était putain, il a entraîné comme Ryan Gosling qui a priori jouait les parties, cela dit, semble-t-il. Mais en tout cas, c'était déjà pas mal, mais là, c'est vrai que c'est ça poussé encore plus à l'extrême. Je veux dire, Damien Chazelle va se palucher devant ce film.
Ah, c'est Stratos. Non, ben non, parce que lui, c'est naturel, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de souffrance. Il va pas aimer.
C'est vrai. Donc Kiss to the Heart, un très beau film, poignant, avec des belles musiques, de la musique classique, ce qui nous prouve encore plus qu'il n'y a vraiment qu'avec de la musique classique qu'on peut avoir une intensité pareille. Et voilà, un très beau film sur la famille, bien prenant, qu'on peut tous aller voir. Et si vous avez l'occasion, puisque c'est peut-être pas forcément un film qui sera diffusé en France, bah, essayez de trouver d'une manière ou d'une autre, mais de le voir, ça vaut le coup.
Même moi qui n'ai pas de cœur, j'ai aimé. Allez, parce qu'il n'y a pas que les thrillers, il y a aussi le sport. Non, sérieusement, il y a une thématique sportive aussi dans ce festival. Donc dans le cycle sportif, nous sommes allés voir As One.
네, 아쉽습니다.
뭐 아쉽지만 실망할 필요는 없지 않습니까? 다음 세계 선수권 대회가 있으니까요.
아니, 앞으로 한 달 넘게 같이 지낼 사이인데 인사 더 살갑게.
나무 젓가락으로 뭐가 있다는 거 본 적 없지.
이 정도도 못 받아서 금메달 따가서 너무 어려워? 살살 친 건데.
마음을 맞춰.
인정아, 형 젓가락 좀 갖고 와라 인정아.
이 상태를 그냥 놔둘 수가 없어.
조선 선수들은 방으로 들어가서 짐 싸고 저런 대기하라.
Drame sportif, oui, il y avait une petite part de comédie un peu, mais c'est vrai que c'était plutôt drame. Donc As One, un film sur le ping-pong. Alors bon, le ping-pong, vous allez me dire, super, 2 heures de ping-pong, c'est génial. Ouais, mais c'est du ping-pong en Corée. Et ça parle d'un événement assez particulier. Ça parle des deux équipes de Corée, Corée du Nord et Corée du Sud, qui fusionnent pour les championnats du monde de ping-pong en 1991. Évidemment, au début, ils ne peuvent pas s'encadrer. Ce sont les pires ennemis et à la fin ils deviennent les meilleurs amis du monde. Cela ressemble à tous les films de bromance. Bien oui, c'est un peu ça.
C'est une bromance fois 1000 avec tous les personnages ont un alter ego dans l'équipe adverse.
Et le summum, c'est quand même ce sont quand même les deux joueurs stars qui se sont affrontés quelques années avant au championnat, qui ont une grosse adversité, mais qui vont jouer ensemble en double pour affronter qui c'est les plus forts en ping-pong. C'est comme aujourd'hui, c'est toujours la Chine. Donc, et puis qui c'est les méchants? C'est comme d'habitude dans le cinéma coréen, c'est la Chine. Non, il n'y avait pas de japonais nazis là aujourd'hui, non. un film sportif, un film avec des gros classicismes, mais quand même efficace.
Ouais, c'est efficace, ça passe bien. Et pourtant, mais qu'est-ce que c'est nié, quoi. Il y a des amourettes, de toute façon, même eux, au final, trouvent ça... Enfin, il y a tous les supérieurs qui trouvent ça ridicule. Il y a pas mal de petites histoires d'amourettes, mais qui sont ridicules à soi. Mais ça passe. Je sais pas, tout le monde se marre, tout le monde t'entraîne dans ce truc-là. Et ouais, au final, tu passes un bon moment quand même, alors que pourtant, ce cinéma-là, on l'a déjà vu des milliers de fois. Il y a rien... On va rien retenir de ça. On en reparle dans deux semaines, on se souviendra de rien. Mais on sort avec la banane, et ça fait plaisir quand même.
Oui, un gros classique. Moi, je me suis amusé à cocher chaque fois qu'il y avait un poncif du sport, chaque fois qu'il y avait une phrase cliché, crois en toi, je le fais pour l'équipe. Nous irons ensemble jusqu'au bout. Nous allons gagner la victoire. Fais-le pour ton père. Tu vois, tous ces...
Mais autant, tu vois, j'ai l'impression... Enfin, pour moi, pour moi, plus qu'un film de sport, hein, il a vraiment voulu faire, donc du coup, une histoire d'amitié. Parce que... En matière de films de sport, alors autant j'ai trouvé que les scènes de ping-pong sont pas toujours très bien foutues, surtout dans la gestion de l'espace, on capte pas toujours si la caméra précise pas vraiment qui a marqué le point, et là tu captes rien en langage visuel. Mais surtout, il y a un truc, alors c'est pas un reproche que j'ai à faire au film parce qu'en soi qu'ils prennent ce parti là, donc enfin il s'agit surtout de joueuses puisque c'est le championnat, on nous montre le championnat du monde de ping-pong féminin, mais l'équipe est mixte, donc en fait il y a aussi. Des matchs masculins qui sont censés se passer au même moment. Et les joueurs hommes, on les voit parce qu'ils sont là, on les voit dans la vie de tous les jours, enfin dans la vie de tous les jours, dans la vie à cet hôtel où toute l'équipe unifiée va être là, donc le nord et le sud, on les voit avoir leurs petites histoires de potes, on les voit avoir leurs petites amourettes et compagnie. Par contre, on ne voit jamais une seule équipe masculine jouer. Donc au final, on se demande presque ce qu'ils foutent là en fait. Donc du coup, alors le parti pris de choisir de montrer l'équipe féminine, il n'y a aucun souci, mais c'est vrai que du coup, peut-être que nous avoir autant montré ces personnages-là, nous faire autant nous attacher à eux et pas nous les montrer jouer dans un film qui est censé parler de sport aussi avant tout, j'ai trouvé ça un peu dommage.
Ouais, enfin, en même temps, ça montre cette équipe qui a gagné une médaille d'or, et alors que les garçons, on ne sait pas ce qu'ils ont fait, ça n'a pas dû être brillant, parce que... Il y avait les mecs qui se faisaient courir après par les filles et ceux qui, par contre, essayaient de courir après les filles du truc en face et qui pensaient qu'à pervertir l'équipe du Nord. Voilà. Les sudistes voulaient corrompre.
Ils se sont fait choper les éliminatoires, en fait.
Ça doit être ça. Ils se sont bourrés la gueule pour pouvoir faire les cons pendant tout le reste du truc. Et oui, alors ça parle de bromance, mais ça va quand même très 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 loin, je trouve, dans la bromance principale, celle des deux joueuses du double. Alors, je ne sais pas s'ils ont pris des libertés dans le scénario, je pense qu'ils ont beaucoup romancé. Je cherchais le terme de bromance pour des filles, jusqu'au moment où ça allait beaucoup trop loin, et là, c'était carrément romance. Ah, mon homme la vie.
Je ne suis pas d'accord avec ça, parce que je ne sais pas, une fois de plus, moi, j'ai vu de l'amitié un peu exacerbée. Je me dis, ça ne peut pas aller aussi loin en si peu de temps, c'est vrai. Mais non, je pense que vraiment, moi, j'ai vu ça sur un film, j'ai vraiment vu une amitié, avec énormément de naïveté dans la façon dont c'est amené. Je pense pas vraiment qu'il y ait autre chose.
Après, oui, alors c'est peut-être très naïf, mais à la fin, quand même, elles se mettent la bague au doigt, quand même.
Ouais, non, elle lui a allumé une bague pour qu'elle se souvienne d'elle, et c'est un symbole, c'est un symbole parce que c'est un souvenir de son père. C'est quand même dit comme tel. Enfin, je veux dire, là, j'ai presque envie de croire ce qu'on nous envoie directement sans qu'il y ait quelque chose derrière. Vraiment là-dessus. Après, peut-être que je me trompe.
Tu vois trop de films, tu sais que quand on peut pas parler de ce genre de truc, on utilise des symboles. Hein, t'es au courant.
Mais je sais, c'est vrai. Mais ça suffit.
Hein, il faut pas croire tout ce qu'ils disent, il faut regarder les images aussi.
Je sais. Tu vas avoir raison par principe.
Après, c'est très chat, ça va pas plus loin qu'une main sur la joue, donc une caresse sur la joue. Ça reste, c'est de l'amitié, quoi, après.
Bref, en tout cas, c'est sympa à voir si vous avez envie de voir un film un peu naïf. Pour ceux qui aiment bien, justement, les films asiatiques un peu à l'eau de rose, je pense que ça pourrait vous plaire. Et pour ceux qui ont envie de voir un film sur le ping-pong, éventuellement, s'il y en a, ça peut le faire.
L'intérêt, c'est surtout le rapport, la séparation entre les deux Corées, Corée du Nord, Corée du Sud. C'est comme beaucoup de films coréens, ça se traite ce sujet-là. Et c'est ce qui fait que la Corée a quand même des sujets en or pour son cinéma.
C'est vrai.
Donc, As One, un film qu'on a plutôt bien aimé, même si c'est très classique, quoi. C'est très gnangnan, c'est un petit péché mignon, voilà, c'est le péché mignon du week-end. On l'a aimé, mais vous le dites à personne, ok?
Chut, c'est notre secret.
C'était pas prévu, parce qu'on avait enregistré la petite séquence de fin avant aujourd'hui. Et donc, et là, on s'est fait le forcing, on s'est motivé, on est allé voir Spy Gone North. On avait prévu de le voir la semaine prochaine et finalement on l'a vu là, donc on le met dans le montage. Voilà. Allez, c'est un petit bonus, c'est offert. Et bien en plus, il sort en salle, donc celui-là, il est plus intéressant que les autres puisque vous pouvez le voir en salle là maintenant. Donc profitez, écoutez ce qu'il suit. On est donc allé voir Spy Gone North de Yoon Jong-bin, film d'espionnage coréen. Encore un, ben oui, c'est un festival coréen en même temps, hein. Bravo les gars. Ça, c'est secret d'état, ça, comme info. Hein. Allez, petite bande-annonce.
The U.S. administration's official position for North Korea's own nuclear bomb is North Korea.
네, 조선 민주주의 인민공화국 대외경제위의 리 처장이라고 합니다. 선생을 좀 만나고 싶은데 말이오.
자네가 접근할 수 있는 인물 중에 유일하게 김정일 위원장과 독대가 가능한 인물이고 말이야.
군에서 추방당한 뒤 사업을 한다는 건 당에서 그런 사람을 믿기 쉽지 않을 것이오.
박 선생. 남조선 정보를 넘겨주시겠소.
Un bon film de 2h20.
Oui.
Encore un.
Ouais, c'est vrai que dans les tu remarqueras que en gros, à part Elodie Yang qui faisait 1h06 à chaque fois, hein, soit quand on allait voir les quand on allait voir le film, enfin le classique, il était plus court, mais sinon
il paraissait plus long.
Mais il paraissait plus long, mais sinon il dépassait tous les 2h10 quoi, à chaque fois. Hein. C'est une constante quoi, ils font vraiment des films de 2 heures et qui ont quand même pas mal de longueur quoi. Et ça faisait pas tant exception non plus là. Hein.
Ouais, en fait, si je regarde le programme de la semaine précédente et des semaines arrivent là pour nos films, les 2 heures, je crois que c'est une tendance.
Hein. Ouais, ouais, je sais pas si t'as vu là, ouais, Sylvio et les autres 2h38, Saltan, l'Hôtel Royal 2h20, pareil. Enfin, de toute façon, en plus, on a vu As the Jack Bill 2h30, First Man 2h20. Ouais, il y a une tendance peut-être de réallonger un peu la durée des films.
Hein. Il paraît que le prochain Avengers va faire 3 heures.
Il paraît que le prochain Avengers va faire 3 heures. Est-ce qu'il y aura un énorme ventre mou qui sert à rien, ou est-ce que ce sera 3 heures de pure action, ou ça sera quand même du coup beaucoup trop?
Je pense qu'il faut envoyer nos espions sur le coup. Ce qui me ramène sur le film d'espionnage. Oh, Transition Man.
Magnifique.
Donc on suit les aventures de Black Venus, espion sud-coréen qui va se faire passer pour un homme d'affaires et il va être chargé de faire du business avec la Corée du Nord pour s'infiltrer dans le pays et enquêter sur le programme nucléaire nord-coréen. Et je vous encourage à aller voir le film. Je ne lirai pas le synopsis qui spoil énormément puisque ça raconte des trucs jusque dans les dernières demi-heures du film. Ce qui est assez ennuyeux, hein. Je le trouve surtout pour un film d'espionnage. Qu'as-tu pensé de ce film, Thierry ?
Alors, moi, personnellement, j'ai un rapport au film d'espionnage qui est toujours assez contradictoire, sans jamais nier leur qualité. D'ailleurs, je les revois souvent plusieurs fois. J'ai toujours du mal à accrocher les mises en situation des films d'espionnage. Enfin, alors, quand je te dis film d'espionnage, je te dis pas le James Bond, hein. Je te dis les films d'espionnage vraiment poussés. Je t'avais parlé de la Top, les œuvres de John le Carré, ce genre de choses, où c'est très fin, c'est pas très fluide, en fait. C'est très poussé, c'est très dense, il y a énormément d'informations. Et si, dès le premier quart d'heure du film, t'as pas réussi à emmagasiner toutes les informations parce que t'es occupé à lire les sous-titres, t'es paumé un petit peu dans le dialogue, t'essaies de comprendre le contexte, c'est foutu. C'est foutu, tu vas juste rester pendant 2 heures fixe devant ton écran de manière livide en te disant « Merde, je suis en train de rater un truc qui a l'air super chouette, les gens réagissent, ça a l'air bien et je suis pas là. » Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé là. Donc je pense que le film est très bon. Il avait l'air, en tout cas. Ça avait l'air super intéressant, ça avait l'air propre, esthétique, ça avait l'air vachement bien, mais je suis pas du tout rentré dedans et ça m'agace.
Bon, alors moi j'ai vu le film du coup. C'est un film, il y a beaucoup d'infos d'un coup, il y a beaucoup de sous-titres à lire. Il faut rentrer dedans, énormément d'informations. Et une fois qu'on est rentré dedans, une fois qu'on a intégré les tenants, les aboutissants, les enjeux du film, finalement, après ça roule un peu tout seul et on est bien dedans. C'est juste que oui, il faut passer le premier quart d'heure, la première demi-heure à se mettre dedans. Après, oui, tu parlais de la Top. Moi, ça m'a fait penser au Bureau des Légendes. Je suis en train de rattraper le Bureau des Légendes et c'est un peu ça. Le Bureau des Légendes, c'est sur les mecs qui sont infiltrés, qui ont une fausse identité. Là, c'est la même chose. C'est un mec qui change d'identité pour passer en Corée du Nord. Enfin, pour traiter avec la Corée du Nord. Et alors, autant le Bureau des Légendes était plus sur le back-office, sur le soutien des mecs, sur ce qui se passe au bureau des renseignements. Ici, là, on va plus suivre l'agent infiltré et les problématiques qu'il a dans ce genre de situation. J'ai trouvé ça intéressant pour ça. Il y a beaucoup de qualité, beaucoup sur l'ambiance du polar. C'est peut-être un peu long, oui, c'est vrai que 2h20 pour un film comme ça.
Après, les films d'espionnage, c'est quand même toujours relativement long. Hein. Quand c'est pas des films d'espionnage d'action, alors je dis bien vraiment, parce qu'il y a tellement de choses à planter que ça m'étonne pas que ce soit long en soi. Là, pour le coup, dans ce genre de film-là, je trouve pas ça inutile. Tu vois, une comédie de 2h20, je trouverais ça peut-être un peu longuée. Un film d'espionnage de 2h20, ça me semble assez logique. C'est plus la norme.
Ouais, d'autant que le rythme est plutôt bon. Je te dis, à part ce qui est difficile au début, une fois qu'on est rentré dedans, on est bien dans le rythme et on suit bien l'histoire. Après, ce qui peut être savoureux, ce sont certains détails, comme Kim Jong-il, parce que on est à l'époque de Kim Jong-il, hein, dans les années 90, qui est décrit comme une espèce de mafieux un peu. Enfin, moi, je le vois comme ça, je le vois comme mafieux en jogging.
Ah, il était plus ou moins comme ça. Hein. Enfin, non, il avait. Enfin, moi, à chaque fois que j'ai vu des descriptions sur lui, c'était exactement ça. Là, il est peut-être un petit peu montré de manière caricaturale parce qu'on sent quand même qu'ils ont besoin de moquer ses traits. On sent en fait, au final, parce que, bon, évidemment, c'est fait par des Sud-Coréens, hein, comme film, et on sent qu'au final, il y a quand même une telle peur aussi de ce régime, de ces mecs et de ce dont ils sont capables, qu'ils ont peut-être besoin de grossir les traits pour se dédouaner du fait qu'ils en aient quand même sacrément la trouille. Et à raison, hein. Parce que, enfin, ce mec est quand même assis sur un bagage nucléaire, ça fait sacrément flipper, quoi. Il y a un parallèle avec Aswan qui est assez marrant, c'est la relation entre l'espion et
une sympathie nord-sud entre deux agents, quoi.
Voilà, qui va se jouer sur des symboles avec des objets et compagnie, comme dans Aswan, et ça c'était rigolo. Non,
alors oui, voilà. Moi, celui auquel ça m'a fait penser, qu'on a vu cette semaine, c'était 1987. Ouais. C'est toujours le même esprit de la méfiance du gouvernement, la manipulation du gouvernement du sud pour manipuler l'opinion et pour garder le pouvoir au sud. Il y a cette critique-là aussi du gouvernement, il y a cette même crainte, il y a ce même état d'esprit qui est là, et cette même méfiance envers le pouvoir qu'on retrouve dans ce film-là.
Alors, en plus, c'est marrant parce que ça répond un peu à la problématique du post-1987, quand on avait eu la discussion à la fin de la séance, enfin, toute la salle avait eu la discussion avec le réalisateur, où justement des gens lui reprochaient d'avoir fait, tu sais, une sorte de happy end, et que lui disait, mais c'était pas du tout une happy end, et là, on était content de ce qui s'est passé aux élections, mais ça a pas du tout été réglé comme problème, et c'est vrai que bah, là, du coup, ça se passe, voilà, entre 5 et 10 ans après. Et ben non, on a toujours un gouvernement qui manipule énormément l'opinion, qui est peut-être un petit peu moins, voilà, enfin c'est pas une dictature militaire comme ils avaient avant, mais ça reste quand même des grosses magouilles assez malvenues.
Et du coup là, en disant ça, on spoil un peu, mais oui, c'est un peu l'état d'esprit.
On spoil, on parle de l'histoire de la Corée aussi.
Oui,
hein,
c'est pas de la Corée, donc ce sont des éléments qui ont été révélés, ce sont des films qui sont à partir d'histoires vraies. Et oui, finalement, ce film-là, Spy Gone North, c'est un peu la continuité de 1987, au moins spirituellement et dans l'esprit. Donc si vous faites une soirée thématique, je vous invite à regarder les deux.
On est carrément d'accord, mais par contre regardez les taux, parce que si vous êtes fatigué de votre journée, Spy Gone North, ça va quand même bien vous assommer.
Bon, une après-midi ici. On arrive à la fin de notre session coréenne. Alors, on a passé 3 jours sur les 6. Voilà, on a fait une petite session tranquille, hein. On s'est fait 3 films par-ci, 3 films par-là. Ce qui nous fait à peu près 9-10 films sur la trentaine de films sélectionnés.
Ouais, c'est ça.
Qu'est-ce que tu retiens de cette semaine ?
J'ai très envie de revenir l'année prochaine, parce que enfin, moi, ça fait en plus, travaillant juste à côté, je connaissais ce festival et j'y suis jamais allé. Donc ça donne envie d'y aller peut-être un peu plus averti, essayer de se renseigner un peu plus sur les films, même si au final on a fait des choix qui étaient toujours intéressants, on n'a pas toujours été très satisfaits, mais c'était toujours différent. Mais ouais, en tout cas, ouais, j'ai beaucoup kiffé, j'ai trouvé l'ambiance super chouette, le public est chouette, l'équipe est chouette, les deux salles du Publicis sont vraiment chouettes, ça valait le coup, c'était bien chouette.
Non, oui, effectivement, une belle programmation, très variée, moi j'ai apprécié, on a eu un très très beau panorama, que ça soit les classiques, les récents. Le film de ping-pong qu'on a vu, il était de 2012, il n'était pas trop récent, mais c'était sur la thématique sportive. Du film d'action, du polar, de la comédie, du drame, de la romance, il y en avait pour tous les goûts. Et ça permet de voir un peu cette richesse du film coréen. Ça nous change des films... c'est Park Chan-wook, c'est ça, qui nous avait fait...
Ou
Bong Joon-ho, voilà, qui nous sortent des films ultra violents, et on se dit, putain, le cinéma coréen, qu'est-ce que c'est? Ben non, en fait, c'est très varié. C'est comme le cinéma français, finalement. C'est une multitude, c'est une palette. Et heureusement qu'il y a un festival comme ça, et que, après, il y a celui-ci, mais il doit y avoir aussi d'autres salles en France, et des distributeurs qui font en sorte de faire connaître ce cinéma, qui mérite d'être mieux connu. Moi aussi, j'ai envie de revenir l'an prochain.
Eh bien, on reviendra. On reviendra.
Petit message appuyé aux organisateurs. Tout discret. Très belle programmation. Assez inégale, hein, faut être honnête.
Oui.
Tout n'est pas de très grande qualité, mais en même temps, c'est ça qui fait le panorama du cinoche. Il y a des fois des trucs très pointus, des révélations, des surprises, et des fois quelque chose de plus consensuel. Et bon, parfois moins audacieux, on va dire.
Qui pourra plaire aussi, parce que nous, enfin, je pense à des films comme The Great Battle que nous, on n'a pas du tout apprécié, mais peut-être que quelqu'un qui s'y connaît dans ce genre de métrage épique et compagnie, qui apprécie ça, l'aura trouvé bien. Qui sait ?
Alors, sur les quelques films qu'on a vus, lequel retiens-tu ?
Alors, toujours, même si c'était le premier jour, donc c'est celui qui m'a marqué le plus, ça reste 1987. Hein. Je pense que c'est celui qui m'a le plus marqué, parce que c'est celui qui m'a le plus happé et dont les thématiques m'ont vraiment plu du début à la fin, avec tout ce que ça a abordé, et ça m'a appris beaucoup de choses que je ne savais pas sur la Corée, donc j'ai beaucoup aimé.
Je te rejoins sur 87, et moi, en deuxième, je mettrai peut-être Kate to the Heart, qui m'a surpris. Je ne pensais pas être pris comme ça. Est-ce que dans la liste des films, il y a un regret que tu aurais voulu voir mais qu'on n'a pas pu pour des raisons de planning ou pas ?
Moi, j'ai pas vu Along with the Gods. Je sais même pas ce que vous en avez dit pour l'instant. Il reste quelques jours. Je me tâte un petit peu parce que personnellement, je peux y aller. J'en discuterai pas du coup dans l'émission. Mais je sais qu'il y a The Foul King qui me tente. Sur un banquier, je crois ça, qui fait un burn-out et qui veut se mettre au catch par le mec qui a fait Le Mont, la Brute, le Cinglé ou même Le Dernier Rempart aux États-Unis. Du coup, ça me ferait marrer d'aller voir un film de ce mec. Et il y a aussi un espèce de... Je crois que c'est une sorte de found footage, pseudo-horreur, de mecs qui vont visiter un asile désaffecté, quelque chose comme ça. Ça avait l'air super chouette. Peut-être que je vais avoir le temps de faire ces deux-là, mais je suis pas certain. Voilà, c'est les deux regrets, en tout cas, je les fais pas.
C'était Certain Les Machos. Spécial festival du film coréen à Paris. Merci Thierry.
Merci Thomas.
Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce format un peu spécial, un peu plus long que d'habitude. Si vous avez vu d'autres films que vous avez appréciés ou si vous avez des avis différents, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram aussi. Eh oui, on croit. Et vous pouvez nous suivre sur votre application de podcast favorite. On vous dit à très bientôt pour la reprise des épisodes habituels. On vous dit à l'année prochaine pour la 14e édition du Festival Coréen. Bisous, bisous.
Bisous.